Dynamique Radio, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Une émission spéciale avec un sujet particulier qui nous tient à cœur, bien entendu. C'est les sujets qu'on a tout au long de la semaine, puisqu'on diffuse du lundi au vendredi, 22h minuit. Et on est avec un témoin clé d'un accident qui a beaucoup fait parler. Je vais dire bonjour à toute l'équipe qui est avec nous. Honneur aux femmes. Bonsoir Jane.
Bonsoir.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Bonsoir Stan.
Bonsoir.
J. Warner aux manettes.
Ouais, salut.
Et puis bah Thierry Tig Potard qui est avec nous. Bonsoir Tig
Potard. Bonsoir, bonsoir l'équipe.
Ça va Tig?
Bah écoute, super.
Alors là, il y a un sujet que tu nous as amené. Voilà. Voilà, Daniel Balavoine. Un meurtre déguisé. On a un témoin clé qui va nous, qui va intervenir dans quelques instants. Jean Pernin. Juste avant ça, Thierry, je voulais avoir une petite introduction avec toi. Déjà, le Paris-Dakar, c'est quelque chose qui te tient à cœur.
Alors oui, le Paris-Dakar, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé pour le Paris-Dakar depuis l'année 1988.
Donc de 88 à aujourd'hui encore ?
Non, jusqu'à 2005 à peu près.
D'accord, donc quand même.
Voilà, et donc moi je m'occupais de faire toutes les parties déco de l'équipe Mitsubishi. Okay. À l'époque, puis d'autres véhicules. On faisait quand même pas mal de choses aussi pour des Paris-Dakar aussi pour les handicapés. Okay. Parce qu'il y avait plein de choses dans le Dakar. Et voilà, j'ai sur un com en fin de compte sur une application, j'ai vu un texte. Qui parlait de Balavoine et j'ai voulu en savoir un petit peu plus, donc j'ai contacté Jean Pernin.
Bah Jean Pernin voilà. Qui est avec nous. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir Jean.
Merci de votre invitation.
Avec plaisir.
Le plaisir est pour
nous. Gentil à vous, il y en a un qui est très content, c'est Daniel Balavoine.
J'espère qu'il est avec nous aussi.
Voilà, tout à fait.
Bah, il est avec nous depuis le temps qu'il attend que cette vérité éclate officiellement. Et c'est sûr qu'il est là, il est ouais. là. Hein, donc il vous a choisi certainement pour monter cette émission ce soir.
Alors de quelle vérité parlons-nous ?
Alors de quelle vérité ? La vérité de cet accident qui pour moi n'en est pas un, suite à l'enquête que j'ai faite. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant du démarrage de cette affaire, parce que moi jusqu'en 2004, j'ai toujours cru à l'accident d'hélicoptère de Daniel Balavoine, dans lequel étaient Thierry Sabine et trois autres personnes.
Thierry
Donc,
Sabine, à l'époque, Jean, on peut préciser quelque chose. Thierry Sabine, qui était le directeur du Dakar. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Thierry Sabine était directeur du Dakar à l'époque. Donc, j'ai jamais remis en question l'accident de Balavoine jusqu'en 2004. Bon, il se trouve que l'affaire est venue à moi grâce à mon fils Olivier, qui est dans l'autre monde, dans l'au-delà.
Alors, justement, c'est un point qui nous intéresse. Voilà, l'au-delà, dans un autre monde. Votre fils est décédé, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc, Olivier est décédé en juin 95, de façon assez brutale. Bon, je vais pas, m'épancher sur les causes de ce départ. C'est assez troublant aussi.
C'est pas un accident de voiture?
Non, c'est pas un accident de voiture. Non, c'est une forme de suicide qui n'en est pas un. Enfin, une espèce d'accident. Ça fait l'objet d'une conférence à part entière. Ça.
Vous nous en reparlerez une prochaine fois.
Voilà.
Voilà, on pourra en parler si vous voulez un soir. Et donc Olivier qui s'est beaucoup manifesté après son décès. Bon, moi, j'étais pas spécialement ouvert à ce qu'on appelle la vie après la mort.
Oui, c'est ça.
Bon, je parle pas de religion, ça n'a rien à voir avec la religion. Toujours est-il qu'après son décès, il s'est beaucoup manifesté à moi, à mon ex-épouse, à sa sœur, enfin à d'autres personnes, à sa camarade. Il est apparu d'ailleurs, il est apparu carrément, il s'est matérialisé. On appelle ça une matérialisation. Et puis, c'était très bien. Donc, ça nous a évidemment rassurés, le sachant toujours vivant dans l'autre monde. Dans l'autre dimension. Et puis, un an après son décès, j'ai commencé à recevoir des messages, en fait, alors que j'étais absolument pas préparé à ça. Donc, j'ai reçu des messages personnelle dans un premier temps. Après, j'ai reçu des messages plus universels parlant du monde, de l'humanité, que les personnes qui nous écoutent pourront voir sur mon site internet, bien sûr.
On peut et le puis, citer, votre site internet,
Jean.
On peut citer votre site internet.
Alors, mon site internet, c'est www.jeanpernin.fr.
Voilà, rien de plus simple. Voilà.
Tout simplement, et si les... Bon, on peut mettre site de Jean Pernin, il n'y a pas de problème, on y arrive. Hein.
Très bien.
Donc, le 4 novembre 1996, j'ai commencé mes communications en septembre, début septembre 1996. Enfin, j'ai commencé... ça s'est imposé à moi, en fait. Hein. J'ai rien commencé du tout. Tout s'est imposé à moi. Et donc, le 4 novembre 1996, j'ai reçu un message... Alors, les messages sont reçus de manière télépathique, on va dire, dans lequel Daniel me dit, Olivier me dit, Daniel est mon ami, mon fidèle compagnon. Alors, là, je suis surpris parce que je ne connais pas de Daniel. Nous n'avons pas de Daniel dans notre famille. Lui-même n'avait pas d'ami qui s'appelle Daniel. Donc, j'en ai pas tenu compte, en fait. Bon, j'ai dit, bon, ok, Daniel, il a dû retrouver quelqu'un dans l'au-delà qui s'appelle Daniel. Voilà, puisqu'on retrouve pas mal de personnes qu'on a connues aussi, peut-être.
Et c'était Daniel Balavoine.
Daniel, alors, voilà. C'est au printemps 97, en fait, lors d'une autre communication que là, Olivier évoque Coluche, Claude François... Daniel Balavoine, Mitterrand, il parle également du commandant Cousteau, il était admiratif du commandant Cousteau, et il parle aussi du général de Gaulle, enfin il parle de personnalités qui sont de l'autre côté.
Alors, et ça vous en aviez pas du tout eu écho à l'époque.
Pardon ?
Vous en aviez pas eu du tout écho.
Ah non. Donc il parle de personnalité. Bon, j'en ai parlé dans mon livre « Passeport pour l'au-delà », sans citer les noms des gens. Hein. Bon, mais on en est resté là. Quand il a parlé de Daniel Balavoine...
Jean, je peux me permettre de vous poser une question. Est-ce que vous avez des prédispositions à rentrer en communication peut-être avec d'autres? Parce que, enfin, pourquoi votre fils comme ça d'un coup? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur avant ou...
Non, il n'y a pas d'élément déclencheur particulier. Ça, vous savez, quand on va dans l'autre monde, on rencontre plein de personnes qu'on a connues ou qu'on n'a pas connues ici. Bon, il se trouve que Olivier a rencontré Daniel Balavoine et qu'ensemble, ils se sont imposés à moi pour me communiquer leur message.
Donc là, pour
donc
résumer...
Ça fait partie de leur mission, en fait. Ça s'appelle une mission.
Une mission. Pour résumer...
Dont on m'a chargé, en fait.
Jean, dont on vous a chargé, c'est une mission. Il est missionné, J. Warner, pour qu'il réponde à ta question. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un au-delà et qu'il y a Coluche, Balavoine, Mitterrand, Claude François, notamment,
oui.
qui sont dans l'au-delà. Revenons à ce Daniel Balavoine. Vous savez, le temps nous est compté. Revenons à Daniel Balavoine. Donc,
alors on va revenir à Daniel Balavoine. Donc au printemps 97, effectivement, Olivier précise qu'il s'agit bien de Daniel Balavoine, mais à aucun moment il est question de son accident, de sa mort ou des circonstances de sa mort. Et je ne questionne pas Olivier à ce moment-là. Pourquoi? Parce que pour moi, Daniel Balavoine est mort dans un accident d'hélicoptère. Et alors, il faut attendre 7 ans, donc on arrive en janvier 2004. Et en janvier 2004, il y a un hommage, comme tous les ans, souvent, pour la mort de Daniel Balavoine. Donc en janvier 2004, je regarde cet hommage télévisé. En effet, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était. Et à un moment donné, donc il y a plusieurs personnalités qui parlent, évidemment, des gens qui ont fait le Dakar, des gens de la famille de Balavoine, dont sa sœur Marie-Françoise Balavoine d'ailleurs. Et à un moment donné, elle dit quelque chose. Alors elle s'exprime après une autre personne qui lui était sur le Dakar. Et là, si vous voulez, on m'a fait comprendre quelque chose par rapport à cette personne, et je me suis dit, là, il y a une intrigue autour de cette mort. C'est la réflexion que j'ai eue à ce moment-là. Il y a une intrigue autour de cette mort, Et on ne nous a pas dit toute la vérité. Alors c'est assez étrange parce que c'était en fait la déformation des propos de Marie de Marie-Françoise Balavoine, qui en fait pour moi s'adressait à la personne précédente que je ne nommerai pas, parce qu'elle a joué un rôle important dans cette affaire, et je ne suis pas là pour faire de la dénonciation ou de la délation.
Et là du coup donc, vous vous décidez à enquêter.
Voilà, donc à partir de là, le 13 janvier précisément, donc quelques jours après l'émission, j'ai reçu un soir un message de Daniel Balavoine. Alors, je ne vais pas vous lire tout ce message, il est dans mon livre, hein, donc, enfin bon, je vais vous dire en gros ce qu'il raconte. Il nous dit de partir à l'assaut de toutes les citadelles qui gouvernent le monde, qu'on doit ébranler en fait les puissants, qu'il l'a fait en son temps, qu'il a provoqué des individus suffisants qui parlent avec le mensonge à la bouche, qui sont des êtres qui nous gouvernent, sont de dangereux prédateurs, ça n'a pas changé, ça s'est même amplifié considérablement d'ailleurs. Ils n'ont pas de scrupules pour s'imposer partout où ils le peuvent, on le voit bien aujourd'hui. La seule chose qui les intéresse, c'est le pouvoir, voilà ce qu'il dit en gros dans le message. Porter des coups sévères à ces individus. Donc, à partir du moment où je reçois ce message, je suis évidemment sidéré parce que c'est énorme. Et puis là, je contacte la famille Balavoine.
Ok.
Contacte la famille Balavoine, c'est-à-dire je contacte Marie-Françoise Balavoine.
Qui est Marie-Françoise, précisez? Marie-Françoise Balavoine, sa sœur.
Marie-Françoise Balavoine, c'est sa sœur. Et une de ses sœurs, s'il y en a une autre, s'appelle Claire Balavoine. Alors, donc, j'appelle cette femme. Alors, bon, elle n'était pas là. Par contre, je tombe sur un monsieur qui était son mari, monsieur Maestre, hein, son mari. Donc, j'échange avec lui. Il n'est absolument pas surpris du message que j'ai reçu parce que lui-même, il a vécu une expérience paranormale, comme par hasard. Donc, et je lui dis, écoutez, monsieur, j'ai le sentiment qu'il y a eu une intrigue autour de cette mort et qu'on ne nous a pas dit toute la vérité. Qu'en pensez-vous? Et là, il est resté silencieux. Donc, silence gêné de mon interlocuteur. Est-il approbateur? Ça, j'en sais rien parce que après, j'en ai pas su plus, si vous voulez. J'ai pas eu de contact supplémentaire avec ces gens-là. Ils m'ont pas rappelé du tout. Bon, enfin, voilà. Donc, déjà, ça m'a surpris que ce monsieur ne réagisse pas.
Il y a une omerta. Une omerta,
voilà,
un petit peu.
En me disant, écoutez, non, surtout quand on parle de l'au-delà, parce que souvent quand on parle de l'au-delà, on nous prend pour des illuminés, des cérébrés, enfin tout ce qu'on voudra.
D'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre émission.
Il aurait pu me dire ça, mais non, il a rien dit du tout, il m'a pas dit non plus, c'est un accident. Il m'a pas dit, c'est un accident.
Et donc, vous avez enquêté. Alors, pour essayer
Alors,
de situer
enquêté,
un peu
j'ai
la chose.
À partir de là.
Voilà. D'accord. Donc, pour résumer les choses, Daniel Balavoine est décédé en hélicoptère, hein, sans la préciser, lors d'un Paris-Dakar. On est en 1986. Voilà.
Il est décédé officiellement le 14 janvier. Hein, la version officielle, c'est quoi? On va résumer.
Voilà.
Faites-nous
la version officielle dans un premier temps.
La version officielle, c'est il fait nuit, il y a une tempête de sable, et il se crache sur une dune.
Oui, ça, c'est la version officielle.
Bon, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est archi faux.
Alors,
et ça, on le sait grâce à des témoins directs.
Alors, quelle est, selon vous, cette vérité? C'est quoi la vérité?
La première vérité, c'est que ça s'est pas passé le 14, mais le 13 janvier.
D'accord.
Voilà, déjà, premier indice, entre guillemets, c'est pas le 14 janvier, c'est le 13. Donc ça, c'est 24 heures avant.
Le 13 en soirée. Donc à partir de là, ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit là, c'est pas possible qu'on puisse, comment dire, masquer une journée sans voir ces personnes-là sur le Dakar. Ah, donc, j'étais pas trop d'accord avec mes interlocuteurs de l'au-delà.
Un autre indice.
Alors, à partir de là, si vous voulez, j'ai eu des informations.
Lesquelles?
Toujours de l'au-delà, me disant que l'hélicoptère avait été mitraillé, qu'il avait en fait été mitraillé et qu'il était tombé au sol. Alors, pas l'hélicoptère du 14, puisque l'hélicoptère du 14, on le verra tout à l'heure, c'est une mise en scène. L'hélicoptère du 13.
D'accord. Apparemment, il y a deux hélicoptères.
Il y a deux hélicoptères, ça vous le montrez dans le bouquin.
Dans ma démarche et la démarche d'autres personnes qui m'ont rejoint dans cette enquête, on a deux hélicoptères, c'est-à-dire un hélicoptère qui a été crashé, qui devait être saboté le 13 en soirée, mais en définitive le sabotage s'est mal passé et ils l'ont mitraillé.
Okay.
Et ça s'est passé où? Ça s'est passé au nord de Niamey, puisque le Dakar, le 13 janvier, c'était une journée de repos, était donc à Niamey. Donc il y avait un bivouac à Niamey.
Donc déjà il y a un problème de date, pour résumer. Il y a un problème d'hélicoptère.
Donc c'est bien beau de dire il y a un problème de date, un problème d'hélicoptère. Il faut quand même trouver des preuves de ça.
Voilà, ouais. Vous en avez trouvé.
J'en ai trouvé, évidemment, des preuves. On en a trouvé. Alors, s'agissant par exemple du mitraillage de l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère, il est rentré dans les ateliers de l'aérospatiale, ça s'appelait comme ça à l'époque, ça s'appelle aujourd'hui Airbus Hélicoptère, je crois.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut le citer, mais il y a quelque temps, un Airbus Hélicoptère s'est crashé en Ukraine avec le ministre de la Défense ukrainien.
Oui.
Revenons à votre propos.
Oui, ça c'est
de l'intérieur,
ça, effectivement. Oui. Ça, c'est l'actualité. Alors, après mon émission, j'ai fait une grosse émission, j'ai fait plusieurs émissions avec Jean-Claude Carton, avec Patrick de Meta TV, on a fait une grosse émission.
Oui, tout à fait. Jean-Claude Carton, on peut dire un collègue, d'une radio FM parisienne. Ici et maintenant.
C'est lui d'ailleurs qui m'a permis de faire les deux émissions dans lesquelles on a parlé de l'affaire Balavoine. Et c'est intéressant parce que j'en parlerai tout à l'heure, c'est là qu'on a eu un coup de fil d'un diplomate. Mais en tout cas, là, je vous parle du témoignage de Maïté. Maïté qui a téléphoné, qui m'a envoyé un mail après l'émission chez Meta TV, qui me dit la chose suivante. De 1992 à 1994, je travaillais sur le site fret aérien de Mérignac et j'avais pour client, entre autres, l'aérospatiale de Mérignac. Et un beau jour, un employé de cette société chargé de transmettre les docs de transport aérien est arrivé dans mon bureau en me disant « L'hélico dans lequel Daniel Balavoine est mort vient d'arriver, il est criblé de balles, mais surtout n'en parle à personne, je n'ai pas le droit de le dire, la direction nous a tous réunis pour nous demander de la fermer. »
Alors, criblé donc, par balles, mais des balles de qui?
Et voilà.
Pardon?
Criblé de balles, mais par qui?
Ah ben par qui? Par ceux qui l'ont mitraillé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont essayé de le saboter, mais le sabotage n'a pas fonctionné.
Alors, est-ce qu'on a un mobile à tout ça?
Le mobile?
Oui. Quel est le mobile,
ah
oui, en fait?
Attendez, vous allez trop vite, là.
Ah, vous en avez encore sous le capot?
Ah ben, j'en ai pour 2 heures, si vous voulez.
Ah ben, on n'a pas le temps, cher Jean.
Jean va faire une partie 1, partie 2, je crois bien.
C'est ça. Non,
vous laisserez le suspense.
Là, bon, il faut quand même que je vous dise deux choses. Alors, le mobile, c'est que Daniel Balavoine a découvert un trafic d'armes sur le Dakar. Bon, il a découvert un trafic d'armes alors que cette année-là, il installait des pompes à eau avec les convois du cœur, Paris du cœur, Paris-Dakar, Paris du cœur, qui était organisé donc avec Thierry Sabine. Alors, s'agissant de la date, je voudrais quand même vous dire deux choses.
Oui.
On a 3 témoins qui nous confirment que la date, c'est pas le 14. Alors, témoins, malgré eux, certainement. Par exemple, Daniela Lambroso, dans son émission le samedi 29 janvier 2005, au cours de l'émission télévisée consacrée aux 25 ans de Starmania, sur France 2, elle évoque clairement la date du 13 janvier. Je peux même vous faire écouter l'audio si vous voulez. Donc, au cours de l'émission, donc elle dit « C'est là, dans la nuit du 13 janvier, qu'il est victime d'un accident d'hélicoptère. »
Bah, c'est peut-être trompé. Ouais.
Ah, bon, alors déjà, premier problème. Deuxième problème, c'est Patrick Chen qui nous montre le carnet de route de l'hélicoptère. Carnet de route s'arrête au 12 janvier.
Voilà, Patrick Chen qui aurait pu être dans l'hélico, hein.
Oui, qui aurait pu être dans l'hélico, oui, qui nous dit des morceaux, des bouts de bois, des bouts dans des sacs poubelles. Oui, c'est n'importe quoi. Donc après, on a un diplomate, évidemment, qui a été réveillé en pleine nuit. Il était diplomate à l'ambassade de France à Nouakchott, en Mauritanie.
C'est qui?
Ah ben c'est Marc Pécou, hein, Marc Pécou, mais vous pourrez pas l'interviewer parce qu'il est mort, le pauvre.
Il est dans l'au-delà.
Ouais. Il est dans l'au-delà aussi. Donc lui, Marc Pécou, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a été réveillé en pleine nuit, vers 23h. On lui a demandé, on lui a téléphoné, on lui a dit qu'il y a un accident qui venait de se produire dans le désert, donc avec Sabine et compagnie, et on lui a dit on recherche un hôpital pour accueillir des blessés. Bon, je vous rappelle que la version officielle a dit qu'ils étaient tous morts sur le coup.
Tout à fait.
Voilà.
Et parce
bon, alors donc lui, Marc Pécou, on lui demande d'accueillir des blessés. S'il connaît un hôpital pour y aller, blessés. Donc, il dit, en plus, il nous dit que ça s'est pas passé le mardi soir. Il nous dit que ça s'est passé une nuit de week-end.
Donc il y a le problème de date. On est d'accord.
Donc, il y a un problème de date.
Il y a le problème d'hélicoptère. Est-ce qu'il y a un autre indice aussi? Parce que là, date hélicoptère, ok. Est-ce que vous avez pu, dans votre enquête, découvrir d'autres indices, Jean?
Ah ben d'autres indices. Il y a des témoignages, si vous voulez. Bien sûr qu'il y a des indices.
Les corps, notamment.
Les numéros de série de l'hélicoptère
ne sont pas les mêmes.
Quand on compare les deux hélicoptères, parce qu'on a quand même trouvé des éléments intéressants.
Ouais, dont l'empennage.
On compare un hélico. Donc il y a un problème avec la béquille de queue, la longueur de la béquille de queue. Et il y a surtout un problème avec deux photos qui sont l'une prise sûrement au petit matin où là il n'y a aucune activité autour de l'épave principale, et puis vous avez la même photo quasiment où il y a une activité autour de l'épave principale.
Alors,
et là on a deux numéros de série qui sont différents.
Qui sont pas les mêmes, et ça on les retrouve dans votre ouvrage, Jean. Alors, il y avait aussi la question des corps.
Alors, il y a la question, donc, je vous dis, deux numéros de série différents pour les deux hélicos.
Hein. On l'a compris.
Vous avez compris, mais tout ça, vous pourrez le retrouver sur les documents que je vous ai envoyés, que j'ai envoyés à Thierry, en tout cas.
Dans votre ouvrage également.
On a aussi le rotor de queue, dont l'axe est bleu sur une photo, et noir sur une autre photo. Donc, ça pose aussi problème.
Et les corps.
Alors, maintenant, les corps. Puisque vous voulez parler des corps.
Oui, oui.
Alors, les corps. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on a... Alors,
ils étaient comment?
Le rapport d'accident que j'ai récupéré, le rapport d'accident dont vous parlera mon ami Luc, que j'ai récupéré grâce au directeur de la sécurité aérienne du Mali, puisque le rapport d'accident n'était pas dans le dossier du BEA. Quand j'ai contacté le BEA ainsi que l'aérostation, on m'a dit « le dossier est vide ».
BEA, on va préciser, donc le bureau d'enquête.
C'est la BGA actuellement, c'est le bureau de...
aéronautique.
Bureau d'enquête aéronautique. Ouais.
Alors, s'agissant des corps.
Oui.
Alors, on a Gérard Joigny, hein, là, c'est un témoin tout à fait. Son qui.
Alors, on vous entend plus.
Rematch nous dit, il est arrivé le soir, je l'ai eu au téléphone, Gérard Joigny, hein.
Oui.
Je l'ai eu deux fois au téléphone, donc j'ai voulu le rencontrer à Paris, il a jamais voulu, c'est dommage. Il nous dit, j'ai donné mon duvet pour recouvrir le corps de Thierry. Devant l'appareil, dans un lac de cerf, quatre corps. Il n'était pas méconnaissable. Balavoine repose sur le dos, il porte son diamant dans l'oreille gauche. Tout près se trouve Nathalie Audan, dans la même position, ils sont intacts. Personne n'a été découpé par le rotor comme certains l'ont dit. Alors je vous rappelle que l'hélico, d'après le rapport d'accident, a touché le sol en piqué à plus de 200 km/h.
Oui, oui.
Et il a fait un crash sur une longueur à environ 150 mètres.
Donc là, on est d'accord, il n'y a plus de corps.
Qui peut retrouver des corps intacts
quand un hélico
touche le sol à 200 km/h?
Non, ça, c'est pas possible.
Et alors, il y a cette question...
Dites-le-moi.
Ça, on l'entend.
Alors, on l'entend bien.
Et puis, il y a cette question aussi de la tombe. Alors là, je voulais que vous...
Alors, attendez, vous allez trop vite, là.
Est-ce qu'il y a des photos de corps?
Vous allez trop vite, parce que j'ai un autre témoignage très intéressant d'un pilote moto qui lui, il s'appelle Marc d'ailleurs, qui lui est arrivé sur les lieux du crash, alors avec sa moto. Il est arrivé avec sa moto sur les lieux du crash, il ne faisait pas nuit. À la tombée de la nuit, j'arrive sur une espèce de plateau, je passe à un arbre, je commence à voir des débris, je vois une grosse carcasse, je m'arrête, je fais le tour, et là j'ai vu Balavoine. Il était sur le ventre. Gérard Joigny l'a vu sur le dos. J'ai laissé ma moto éclairée, au loin j'ai vu des voitures de secours arriver, après je suis parti. Je n'ai pas vu les autres, Balavoine était intacte sur le côté de l'hélico, la tête dans le sable. Quand je suis arrivé sur l'accident, ça ne soufflait pas, il n'y avait pas de tempête de sable.
Il y a déjà une incohérence entre ce qu'il dit Joigny et ce qu'il dit le motard, quand même.
Hein.
Il y a une différence, pourquoi ? Parce que lui, je vais vous dire ce qui s'est passé. Lui, il est arrivé pour la mise en scène des corps de la veille. Ils étaient en train de faire une mise en scène, donc il est arrivé trop tôt.
Okay.
Il a vu un corps, simplement celui de Balavoine. Il a vu ces deux voitures qui lui ont dit « Vas-y, on s'en occupe ». Il est parti et ils ont installé les autres corps. Et c'est pour ça que Gérard Joigny a trouvé l'ensemble des cinq corps. Lui.
D'accord. Est-ce qu'il y a des photos des corps ? Est-ce qu'il y a eu des photos découvertes ?
Ah bah, des photos ! Allez demander à Gérard Joigny s'il y a des photos.
D'accord.
Pensez bien que s'il y a des photos, il n'y en a aucun qui a montré des photos. Pourquoi ils n'ont pas montré de photos ? Parce que leur version est complètement fausse, complètement bidonnée. Donc ils n'allaient pas montrer de photos. Donc on n'a pas de photos des corps. Non, on n'a pas de
photos.
Juste des témoignages. C'est bien dommage d'ailleurs.
Et il serait où les corps ?
Il n'y a pas eu d'autopsie ?
Non.
Ah, il n'y a pas eu d'autopsie du tout d'ailleurs, pas du tout. D'ailleurs, la mère du pilote, quand elle a voulu voir le corps de son fils à Bamako,
qu'est-ce qu'on lui a dit ?
On lui a interdit de le voir. Ils avaient soi-disant été piqués par des serpents dedans.
Ah. Et donc personne n'a vu le corps dans le cercueil.
Parce que là, il faut quand même que je vous parle du témoignage de la mère
et
du
la
pilote.
De Balavoine. Ils ont vu le
donc
corps.
Donc personne n'a vu les corps de
alors,
de
bah si, simplement c'est des témoins qui n'auraient pas dû être là.
Ont été mis dans des cercueils scellés.
D'accord.
Cercueils scellés, d'ailleurs, si vous parlez rapidement aussi dans votre ouvrage, de la tombe de Balavoine, juste une petite aparté.
La tombe de Balavoine, mais avant de parler de la tombe de Balavoine, je voudrais quand même vous parler de la mère du pilote.
Oui dites-moi.
La mère du pilote qui a déclaré en janvier 2011, à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de son fils, qu'en fait... elle était allée voir le principal témoin, alors c'est soit Belvez, soit son coéquipier Jacques Giraud, d'ailleurs ces deux-là n'ont pas le même témoignage, c'est quand même étrange. Elle est allée voir un concurrent assister au crash, il a constaté le désastre et poursuivi sa course. Saint-Dine Albina du Bois-Rouvray, 20 minutes après il était à Gourma, prétendument en état de choc, écoutez, parce que là c'est énorme là. Il a attendu 3 heures avant de donner l'alerte.
Pour quelle raison ?
Oui, pourquoi ?
Peut-être que s'il avait réagi plus tôt, quelqu'un aurait pu être sauvé. Je suis allé le voir et j'ai hésité à porter plainte contre lui pour non-assistance à personne en danger. Pour l'exemple, mes proches m'en ont dissuadé. Et pourquoi il a attendu 3 heures, ce mec-là, avant de donner l'alerte ?
Ah oui,
pourquoi ?
On n'a pas la réponse.
Qui était ce type-là qui a attendu 3 heures avant de donner l'alerte ?
Bah pourquoi ?
Ah, c'est
c'était
qui ?
C'était Belvez, c'était Giraud qui était avec lui, qui d'ailleurs n'ont pas le même témoignage tous les deux. Questionnez-le, Giraud. Essayez de le trouver, de le questionner. Oui. Ils n'ont pas le même témoignage.
On va pas rentrer dans les détails. Par rapport à cette fameuse tombe-là, la tombe de Daniel Balavoine.
Alors, la tombe de Daniel Balavoine. Alors, effectivement, j'ai un jour une personne qui me téléphone. Je connais quelqu'un qui a porté le cercueil de Daniel Balavoine et qui m'a dit que qu'il n'y avait pas de corps dedans. Alors effectivement, ce monsieur, je l'ai questionné. Donc les messages de l'au-delà nous ont dit effectivement à Christine, une amie parisienne, et à moi-même que le cercueil était vide. Et ce monsieur nous a confirmé que quand il est descendu dans le caveau et qu'on lui a incliné le cercueil, il a entendu du sable couler à l'intérieur. Et ils se sont fait surtout la remarque avec les collègues qui portaient le cercueil, c'est qu'en fait, le cercueil était très léger.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui...
Mais où est le corps, alors ?
Daniel Balavoine...
Ça veut dire que Daniel Balavoine, il est au Mali. Son corps est resté au Mali.
Mais
où ?
Mais la famille
n'a pas pu
voir le corps de leur fils.
Non, parce qu'il a dit tout à l'heure, le cercueil est scellé.
Ils sont tous au courant.
Mais ils n'ont pas pu faire déceler le cercueil quand il est arrivé ?
Non,
tu ne peux pas faire déceler le cercueil.
Non, mais quand le cercueil est arrivé, ils ne l'ont pas vu. Voilà. Je lui ai dit que c'était scellé.
Et il est où le corps de Balavoine en Mali alors?
Bah, au Mali.
Mais où au Mali?
Le corps de Balavoine n'a jamais été vu au funérarium de Nantes, je sais plus où, c'était Nanterre, je crois. Mmh. Donc, non, il a pas été vu, le corps, personne ne l'a vu. Daniel Balavoine est resté au Mali, mais c'était tout simplement, comment dire, sa volonté, hein, c'était tout simplement ça. Il y avait pas de mystère là-dedans. Donc Je pourrais aussi vous parler du testament qui a été rédigé par Thierry Sabine avant de faire Dakar 86.
Il y a aussi ça. Alors oui, maintenant, ça, pour résumer là, parce qu'il nous reste que quelques minutes.
Ça sera plus tard autour d'un verre, cher Jean.
Alors, ou à la radio surtout, plutôt, parce qu'on est en radio, et c'est plus intéressant d'avoir les témoignages en radio qu'autour d'un verre. Après, si Stan, tu veux passer du bon temps avec Jean autour d'un verre, il n'y a pas de souci.
Avec plaisir.
Là-dessus, et même avec Tic Potard, et ainsi que nous, et même venir au studio si à un moment donné vous êtes en région parisienne. Mais juste un point.
Je suis loin de chez vous, hein.
Vous êtes loin. Mais juste un point là-dessus, avec le recul, là. Vous avez écrit votre ouvrage, vous avez enquêté, vous n'avez jamais eu de menace?
Non, je n'ai jamais eu de menace. Pourquoi? Parce que j'ai une protection de l'au-delà.
Oui, d'accord, non, vous avez une protection de l'au-delà. Simplement, aussi une question. Les grands médias ne sont pas intéressés à votre ouvrage.
Ouais, c'est ce que je voulais dire.
Non, les grands médias ne s'intéressent pas à cet ouvrage parce que ça contrarie considérablement la version officielle et que si on réunit tous les témoins qui sont encore vivants ici, ça va être une poire d'ampogne, ils vont se taper sur la gueule.
Donc,
parce qu'ils ont, y en a aucun qui a le même témoignage, donc ils racontent n'importe quoi. Par exemple, Patrick Chêne, il faudrait le confronter, voyez, à Gérard Joigny. Patrick Chêne, il parle de corps d'attaque, il parle de bout de bras, de bout de tête mis dans des sacs poubelles, lui.
Très bien, ok. Bah écoutez, on essaiera de l'avoir au téléphone. Hein.
Ah, il est bon, lui. Alors, ce que je voulais quand même vous dire par rapport à mon livre, c'est que il faut vraiment le dire pour les gens qui écoutent, parce qu'il y en a qui vont dire, tiens, ça y est, lui, il a fait du pognon sur le nom de Balavoine. Les droits d'auteur de ce livre sont versés directement par mon éditrice Louise Courteau à l'association Daniel Balavoine.
D'accord.
Bravo. Très bien, bravo à vous.
Voilà, ça, il faut quand même le dire.
Et vous avez fait combien de ventes depuis?
Oh ben ça, j'ignore exactement. Je n'ai même pas plusieurs milliers, bien sûr. Mais je n'ai pas le décompte puisque ça, c'est viré directement.
C'est tout à votre honneur, Jean. C'est tout à votre honneur. Merci en tous les cas pour ce petit témoignage. Deux, trois questions là pour conclure.
Oui, Jean, Diana, est-ce que vous avez eu quelque chose sur Diana, par exemple?
Pardon?
Sur Lady Di. Est-ce que vous avez
eu un... Non, j'ai rien eu.
Pas de message de l'au-delà. Pas de message de l'au-delà.
J'ai rien eu sur Diana. Non, moi c'est l'affaire Balavoine. Même sur Coluche. Ah, Coluche, il n'y a pas trop de questions à se poser, hein, ils l'ont liquidé aussi. Si, j'ai eu une information, mais normalement je devrais pas en parler, mais j'en parle quand même.
Dites-nous.
Ah, ça vous intéresse, ça?
Bien sûr.
Toujours.
Claude François, ils l'ont liquidé aussi, mais c'était pas politique, c'était des affaires d'argent.
Ah, d'accord.
Et alors, une question de Tic Potard.
Oui, je voulais juste savoir, Jean, pourquoi Louise Courteau? Parce que Louise, en fin de compte, elle est éditrice au Canada.
Elle est l'éditrice au Canada parce qu'il n'y a aucun éditeur courageux français qui a voulu s'investir là-dedans.
Je pense qu'ils ont peur.
Et vous avez tapé à la porte en France,
mais
justement.
J'ai tapé à Louise Courteau m'a édité tous mes bouquins, à part les deux derniers, puisqu'elle a pris sa retraite. Elle a vendu sa maison d'édition.
D'accord.
Donc elle a édité Passeport pour l'au-delà, Vers un monde d'amour, Daniel Balavoine, Meurtre déguisé. C'est même elle qui m'a demandé d'écrire ce livre. Je lui ai même pas proposé, puisqu'on avait fait des articles déjà dans la revue Top Secret avec Rox Sahuker, on avait fait deux articles, et c'est elle qui m'a demandé d'écrire ce livre sur l'affaire Balavoine.
D'accord.
Voilà, parce qu'elle est plus courageuse que les Français.
Et alors, Jean, une dernière question, et après on vous laisse tranquille. Est-ce que vous avez un petit message sympa pour notre radio, Dynamique Radio?
Un message pour vous?
Oui.
Venant de l'au-delà, tu veux dire.
Personnel?
Qu'est-ce qui vous vient?
Venant de l'au-delà, tu veux dire.
Oui, voilà.
Un petit message, c'est que, écoutez, le message que j'ai pour vous, c'est médiatiser. Bravo déjà pour faire cette émission, parce que c'est pas anodin du tout. Attention, hein. Vous avez une bonne assurance vie?
Moi, je pense qu'il faut.
Oui,
moi,
ça fait
je...
pas.
Moi, ce qui me. La réflexion que j'ai, c'est tous les risques encourus
qui sont ben, autour de vous, d'abord parce que vous portez une voix qui ne veut pas être entendue par une partie là, du gouvernement ou des hommes politiques français, entre autres, je pense. Et puis ben, peut-être aussi nous qui diffusons tout ce message. Je trouve que c'est un sujet qui est porteur, qui amène à réfléchir et qui est peut-être dangereux également. Donc soyez très prudents.
Je vais vous dire quelque chose. Hein.
Oui,
vous savez, je crois à la vie après la mort, j'en ai des preuves.
Oui. Oui, nous aussi.
Donc tous ces gens qui voudraient attenter à ma vie, je les emmerde déjà pour commencer.
Voilà.
Donc déjà, s'ils sont à l'écoute, je leur dis je les emmerde et je vous emmerde.
Excellent. Oh,
merci. Puisqu'on l'a quand même pas dit, mais j'ai quand même eu contact avec des gens de la DGSE, hein, dont un qui a vu l'affiche de mission signée Mitterrand, intitulé de la mission Opération RMIA, qui vient du grec, qui veut dire désert.
Ok, bon bah
merci,
comme quoi...
Merci,
titre de l'opération, faire taire cet arrogant.
Voilà.
Faire taire arrogant, c'est Balavoine, c'est avec toute une liste de ministres. Donc ce monsieur de la DGSE, je vous dirai pas son nom bien entendu...
Ah dommage, on veut savoir.
Il a eu accès à la fiche de mission signée Mitterrand.
Est-ce qu'il est toujours en vie, ce monsieur?
Ah bah bien entendu.
Et vous avez toujours contact avec ce monsieur?
Ah, j'ai plus de contact avec lui, parce que vous savez, il a donné cette information, hein, je vous dirai pas dans quelles conditions ça s'est passé, grâce à une amie de Paris d'ailleurs.
Sous la torture.
Mais ça nous intéresse, ce genre, ça nous intéresse.
Sous la torture, sous l'oreiller, nous dit-on.
Ah ben, il va pas se mettre en porte-à-faux, il est plus dans la boutique, hein. Mais même quand on n'est plus dans la boutique, on est soumis au secret professionnel. Ouais.
Voilà, oui. Vous luttez, bravo à vous, parce que vous luttez contre la raison d'État, et la raison d'État fait foi.
Sachez qu'il y a dans les archives officielles de la DGSE tout ce qu'il faut sur cette affaire.
Très bien, bah écoutez.
On ira voir le patron de la DGSE dans ce cas-là, on posera les questions.
Mais bien sûr.
Tout à fait. Vous avez rendez-vous.
Écoutez, bon courage.
Ouais, merci Jean. On reparle de votre ouvrage. Donc c'est Daniel Balavoine, Meurtre déguisé. Donc aux éditions Louise Courteau. On va tous
aller l'acheter. Allez, achetez-le, voilà. Jean Pernin, puis vous allez
sur internet. Moi, je l'ai déjà acheté,
www.jeanpernin.fr. Merci à
merci
vous, Jean.
Merci, Jean. À bientôt.
Merci, Jean.
Merci à vous tous. Et puis, diffusez, médiatisez au maximum.
Ah, voilà.
On va le faire, vous inquiétez pas.
On va le faire. Kenavo, comme on dit chez nous.
Bonne soirée. Kenavo,
en effet. Merci beaucoup.
Chez toi.
Et bonne soirée. Bonne continuation avec les amis, les collègues.
Merci, Jean.
Merci.